L'hommage national à Samuel Paty se tiendra mercredi. Un hommage dont le lieu n'a pas encore été annoncé, mais qui est organisé en coordination avec la famille de ce professeur, décapité hier en pleine rue. Et au lendemain de ce drame, on s'interroge sur la liberté d'exercer des enseignants. Comment les protéger du pire et aussi de l'autocensure? Bonsoir René Chiche.
Bonsoir madame.
Merci de nous rejoindre, vous qui êtes professeur agrégé de philosophie, membre du Conseil supérieur de l'éducation. Dès lundi 2 novembre, retour des vacances de la Toussaint, quel sera votre premier geste, votre premier cours face à vos élèves, René Chiche?
Ben écoutez, tout naturellement, je ne ferai pas cours. Je ne peux pas continuer comme si de rien n'était. C'est ce que j'avais d'ailleurs fait les fois précédentes, à commencer par le 7 janvier, le lendemain du 7 janvier 2015, évidemment. Je vais vous dire que je me fais violence là pour vous parler, parce que j'écoutais auparavant vos sujets, le sport, etc. On a quand même un professeur de l'école de la République qui a été décapité, et le pays continue à tourner comme si on s'était habitué à cette c'est plus que de la violence, à cette barbarie. Là, il y a quelque chose qui va pas et qui devrait interroger tout le monde. Je trouve effectivement, même si c'est bien qu'il y ait un hommage national, que on aurait dû tous sortir dans la rue aujourd'hui. Si on n'est pas capable de le faire, ça veut dire qu'on ne se reconnaît plus, que la société française ne se reconnaît plus dans son école. Et là, je crois qu'on est au cœur du sujet, en réalité.
Bien sûr, ça a été fait, notamment avec cet hommage à Paris, place de la République, cet appel de SOS Racisme à venir conjuguer un petit peu son émotion avec celle de l'autre. Je crois qu'on ne s'habitue pas, heureusement, mais qu'on a conscience du degré supérieur de barbarie. Voilà pourquoi je vous interrogeais, René Chiche, sur ce que vous allez faire. Est-ce que l'un de vos gestes, après ce cours que vous allez suspendre, sera à vous aussi de republier, de remontrer ces caricatures, de les afficher dans l'enceinte de votre cours, par exemple?
Ah bah alors ça c'est une évidence, ça ne fait même pas l'ombre d'un doute, bien entendu que je vais montrer ces caricatures et le titre de Charlie Hebdo, tout ça pour ça, est encore une fois hélas tragiquement illustré. Bien entendu, il ne s'agit pas simplement que de montrer des caricatures, il s'agit de faire réfléchir. Et on est là aussi en face d'un déni dans l'éducation nationale. Alors il y a plusieurs facteurs. Il y a des collègues qui ont peur, qui ne se sentent pas capables de faire ce que d'autres vont faire.
Oui, on peut le comprendre.
Je suis évidemment pas le seul. Et puis ça, je crois que ça dépend effectivement des établissements. La situation est très hétérogène sur le territoire. Et je pense qu'on ne peut plus parler de l'école de la République au singulier. Il y a aussi, hélas, au sein de l'éducation nationale, une espèce d'idéologie qui s'est emparée lentement de tous les esprits et qui a substitué à ce que l'on appelait jadis l'instruction, une espèce de moralisme d'édification. Où l'on invoque, donc c'était le cas d'ailleurs de ce collègue, il faisait un cours de ce qu'on appelle l'enseignement moral et civique. Et l'enseignement moral et civique, en réalité, c'est pas un cours. C'est un moment où on débat.
Oui, et vous choisissez vous-même vos outils pour le faire.
Mais oui, mais comment voulez-vous que des jeunes à qui l'on apprend plus grand-chose aient les instruments pour débattre correctement? Là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et que on ne veut pas regarder en face. Moi, je suis effectivement un grand défenseur de toutes les valeurs qu'on appelle à tort les valeurs de la République, qui sont des valeurs universelles. Mais en tant que professeur de philosophie en terminale, j'ai aussi déjà du mal à expliquer ce que c'est que la liberté à des élèves.
Oui.
Alors, on a tous un tas de préjugés sur un tas de choses. Le but de l'école, c'est quand même de pouvoir mettre ces préjugés à distance de soi, de les examiner. Cela demande des préparations et cela demande surtout des instruments, des outils. À force de diminuer les heures d'enseignement, de réduire l'apprentissage de la langue française à peau de chagrin, de négliger les mathématiques qui sont quand même l'apprentissage de l'usage de la raison, qu'on applique ensuite sur tous les sujets, effectivement on se retrouve dans une situation où on ne peut plus examiner ses préjugés, on ne peut que affronter les opinions s'affrontent les unes,
oui,
les unes avec les autres.
J'entends ce que vous dites. D'ailleurs, vous avez commis un livre sur le sujet, La désinstruction nationale, ce qui signifie, de votre point de vue, qu'on risque d'aller dans une forme d'autocensure, justement, et de redonner encore un peu plus de terrain à ces sentiments, à ces préjugés, à cette ignorance. René Chiche ?
Oui, et là, c'est, alors moi je suis très pessimiste, mais il y a un point dans cette tragédie là qui vient de se dérouler sur lequel j'aimerais quand même insister, c'est l'influence ou l'importance qu'on a donnée aux parents d'élèves dans l'institution. Il y a aussi de ce point de vue là, si vous voulez, une perte totale de repères. On a l'impression que les gens ne sont plus à leur place parce que en fait ils ne savent plus quelle est leur place.
Et que les parents d'élèves sont décisionnaires quasiment du contenu éditorial d'un cours, en l'espèce, celui du 5.
Mais en l'occurrence, puisque vous avez indiqué, rappelé que je suis membre du Conseil supérieur de l'éducation, au Conseil supérieur de l'éducation, vous avez aussi des associations de parents d'élèves qui se prononcent sur les questions qui sont mises au programme, hein, sur les programmes d'enseignement. Et je m'interroge, mais au nom de quoi? Oui. Au nom de quelles compétences? À un moment donné, et dans une république en bonne santé, il faut affirmer un certain nombre de choses, l'affirmer sans polémique, hein, sans faire la guerre à quiconque, mais en étant sûr de ce que l'on affirme. Or là, on met tout en question.
C'est un sujet très important que vous soulevez là, René Chiche. Le rôle, la présence de ces parents d'élèves jusque bien au choix quasiment du contenu, on le disait. Moi, je voudrais vous interroger sur autre chose, c'est-à-dire votre rôle ou vos outils, ou vos armes comme enseignant, comme intellectuel. Lorsqu'en 2015, par exemple, lorsqu'on vous demandait une minute de silence après l'horreur de ces attentats, certains élèves vous disent non. Je le ferai pas, ma religion me l'interdit. Lorsque certains ne veulent pas entonner la Marseillaise, comment vous avez aujourd'hui les armes, encore en 2020, puisqu'on en reparle sempiternellement, pour réagir à cela?
Écoutez, moi je crois que quand on est un professeur de la tradition républicaine classique, un hussard noir comme on dit, on n'a absolument aucun problème pour réagir en face de ça. Le problème, c'est que l'institution dans laquelle nous sommes conteste de plus en plus à ces professeurs-là leur mission.
Leur autorité.
Et oui, exactement. Moi, j'ai eu aucun problème en face d'une jeune fille qui prétendait ne pas faire la minute de silence. Je lui ai demandé de me montrer immédiatement sa carte d'identité. Je lui ai fait lire ce qu'il y avait marqué dessus, carte d'identité française, nationalité française. J'ai menacé de la déchirer si elle ne venait pas faire cette minute de silence. Évidemment, je l'aurais pas fait, mais enfin bon, elle m'a cru. Et ensuite, c'est-à-dire une fois que l'ordre était rétabli, ensuite, on a discuté et elle a cherché à m'expliquer pourquoi elle m'avait dit que sa religion le lui interdisait. Il se trouve qu'en réalité, elle n'avait même pas compris le texte sur lequel elle prétendait se fonder pour ne pas faire cette minute de silence. Je le lui ai expliqué, ce texte, et je lui ai expliqué comme j'expliquerais n'importe quel texte, c'est-à-dire en faisant appel à son intelligence. Et elle a compris, et quand elle a compris, il n'y avait plus de problème. Mais si on n'a pas cet espace-là, qui effectivement, je vous ai entendu prononcer le mot sanctuaire, doit être sanctuarisé, doit être soustrait à toutes les influences néfastes, préjudiciables de la société, parce que la société ne tient pas forcément à ce qu'on prenne le temps d'examiner toutes les opinions, y compris les opinions qui sont majoritaires au sein de cette société. Mais l'école, c'est ça, c'est cette fonction-là. C'est-à-dire, effectivement, il faut mettre à l'abri des professeurs et leurs élèves afin qu'ils puissent se consacrer en toute tranquillité à perfectionner l'usage de leur raison.
Voilà. Merci René Chiche. Et on vous sent aussi très ému parce que vous avez suffisamment travaillé sur le sujet, considérant que l'école était le seul centre de déradicalisation efficace, hein, je vous cite aussi, et qu'il faut évidemment la préserver. On retient vraiment vos propos ce soir qui nous engagent à la réflexion. J'ajoute que vous êtes aussi vice-président du syndicat Action et Démocratie, professeur agrégé de philosophie. Merci René Chiche de votre présence ce soir.
Je vous remercie à mon tour.
Merci. Bon courage.